diffusée tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi. Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Emmanuel Morse d'Un Camp à la Technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux, Adèle Van Rett. Adèle qui, dans le journal des Nouveaux Chemins à 10h50, recevra Mathias Roux pour vous parler de Socrate en crampons, une introduction sportive à la philosophie. Suite et milieu, ce mercredi, d'une semaine sur Bachelard, dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une semaine où l'épistémologie alterne avec la poétique. Après avoir parlé hier de l'obstacle épistémologique avec Pascal Nouvel, avant de nous poser demain avec Didier Gilles la question des ruptures continues entre connaissances communes et connaissances scientifiques, c'est aujourd'hui de musique qu'il sera question. Bachelard musicien, c'est l'étrange sujet du jour.
Demandons-nous par quel génie psychologique notre langue française, comme plusieurs autres, a trouvé la formule « une eau dormante ». Une eau dormante. Comment l'eau dort-elle? Pourquoi cette image? Dès que nous l'analysons, pourquoi nous apparaît-elle si vaste, si vraie, si humaine? N'eût-il pas suffi de parler d'une eau calme, d'une eau tranquille? Un esprit rationnel et positif ne préférerait-il pas la simple mention d'une eau immobile? Non, la véritable image poétique ne décrit pas, elle évoque. Elle appelle des souvenirs, elle provoque des songes, elle s'ouvre sur un monde infini. Une eau dormante, voilà bien un univers pour un dormeur éveillé. Voilà bien le symbole de l'énigme du monde.
Bonjour Marie-Pierre Lassus.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous êtes maître de conférences en musicologie à Lille 3 et l'auteur de Gaston Bachelard, musicien, une philosophie des sciences et des timbres, paru en juin 2010 aux éditions du Septentrion. Alors, Bachelard, musicien, c'est très surprenant. Hein. Quand on a découvert l'existence de votre livre, on s'est jeté dessus. Avec une vraie curiosité, parce que, effectivement, on avait en tête de faire une semaine sur Bachelard, et personne n'avait pensé à faire une émission sur Bachelard, musicien, pour une raison simple. C'est que Bachelard n'était pas vraiment musicien, il a fait un peu de violon, mais c'était pas un musicien pratiquant de la musique. Il n'a construit, en tout cas à ma connaissance, aucune théorie sur la musique. Et de façon générale, ceux qui commentent les œuvres de Bachelard négligent d'y voir de la musique, préfèrent y voir davantage de la rêverie, et en général font valoir que Bachelard néglige un peu les arts plastiques, comme la danse et la musique. Alors, à quel titre peut-on parler de Bachelard musicien? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage, Marie-Pierre Lassus, évoquer un Bachelard musical, un Bachelard dont la voix, dont les sonorités des textes, ou bien l'attention portée au silence, font de lui un être musical plus que musicien?
Alors, cette idée, effectivement, était l'idée de départ, puisque mon premier texte, vraiment, sur Bachelard et la musique, était un texte sur l'écriture, en fait, musicale de Bachelard, que je percevais depuis toujours.
Le rythme de
son écriture. Le rythme, les sonorités, l'activité qui règne dans ces textes. Et effectivement, ce constat m'est apparu relativement banal au fond, puisque c'est le lot de tous les poètes, finalement, la poésie et musique. Et finalement, le musical chez Bachelard était quelque chose d'assez accessible, d'assez facilement accessible. En revanche, ce qui m'a beaucoup intriguée dans ma lecture de Bachelard, ce sont des détails infime qui passe comme
infime,
ça.
Infime, c'est immense. Hein.
Infime et immense. Comme
on en parlait lundi dernier avec Jean-Philippe Pierron qui parle de cet oxymore de détails immenses chez Bachelard.
Des petites phrases anodines mais qui donnent une idée d'une écoute absolument très fine, extraordinaire de ce musicien qui, pour moi, Bachelard est vraiment un musicien. Notamment quelques petites choses, notamment une chose qui m'a énormément frappée, c'était dans la dialectique de la durée, par exemple, le fait qu'il dise « il y a d'abord les timbres et ensuite les durées ». Il affirme ça, il le démontre, contrairement, comme on le sait très bien, à la thèse d'Henri Bergson. Ça, c'est
Il fait valoir, en mettant le timbre avant la durée, il fait valoir le discontinu avant la continuité.
C'est,
c'est là qu'il est anti-bergsonien.
Il est anti-bergsonien, mais en même temps, entendre d'abord les timbres et non pas la mélodie, les hauteurs, enfin toutes sortes de choses, c'est déjà un indice d'une écoute très particulière, d'une écoute verticale, harmonique, qui est une écoute particulière déjà, et spécifique, je dirais, un petit peu au XXe siècle, beaucoup de compositeurs au XXe siècle nous ont fait entendre cette verticalité du son, première chose. Et puis, cette espèce de leitmotiv qui revient dans ses textes sur l'imagination, qui n'est pas l'imagination tout court, c'est l'imagination activiste, l'imagination de la vie. Et puis, le fait de dire aussi toujours, on entend mieux par l'imagination que par la perception. Or ça, finalement, c'est une chose qui peut-être n'est pas... suffisamment, dont on ne prend pas suffisamment la mesure, puisque un musicien, c'est au fond quelqu'un qui entend d'abord par l'imagination. Un musicien, c'est quelqu'un qui pré-entend le son et les sons. Et donc, ces petits indices me montraient qu'il y avait quand même chez Bachelard une écoute assez fine.
C'est-à-dire le musicien est celui dont l'imagination fabrique un terrain propice, accueillant, au fond, pour tout ce qu'il perçoit et des détails infimes qui, par là même, deviennent immenses. Dans l'archive qu'on a entendue au début de cette émission avec vous, Marie-Pierre Lassus, Bachelard s'interroge sur la vertu poétique par excellence, qui est au lieu de parler comme le ferait un esprit rationnel ou positif, qu'il est par ailleurs, d'une eau calme, tranquille, immobile, c'est-à-dire d'une eau banale. On parle d'une eau dormante. Et il s'interroge sur cette opération, sur cette métamorphose du calme en sommeil ou en demi-sommeil, en rêverie, en attitude dormante, sur la distinction qu'il faut faire entre la description et l'évocation qui qualifie un univers, l'univers du dormeur éveillé, et qui nous renvoie à l'énigme du monde. Est-ce que ce passage de la banalité rationnelle ou positive des choses, c'est-à-dire où on se contente de décrire le monde, à l'évocation, la puissance suggestive du monde, est un passage qu'on peut qualifier de musical ou qu'on peut illustrer par la musique elle-même.
Je pense que c'est un passage justement absolument décisif. Je pense que justement, cette idée de mettre en action chez l'auditeur des mouvements, c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans mon livre, est quelque chose d'absolument essentiel. Une écoute, justement la différence, tout à l'heure on parlait de Bergson, une écoute c'est pas quelque chose qu'on subit. Une écoute, ce n'est pas une mélodie qu'on entend, non, c'est quelque chose qui met en mouvement, qui nous met en vie. Et je dois dire que les textes de Bachelard ont, de ce point de vue, un pouvoir immense. C'est-à-dire que les textes de Bachelard, on ne peut pas rester insensible à cette dynamique des textes de Bachelard qui nous mettent en mouvement comme le font les musiques et comme le fait la musique.
Comme le fait la musique. Et l'utilisation que Bachelard fait de la musique est donc une utilisation à la fois, donc évidemment, c'est le sens de l'ouïe que vous privilégiez pour en parler, mais c'est une utilisation implicite. Bachelard parle éventuellement de la musique des mots, mais il en parle moins qu'il ne la met en scène. C'est particulièrement frappant quand on l'écoute lui-même parler d'ailleurs et faire comme des arpèges ou des vocalises avec sa voix de terreux bourguignon.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment, vraiment tout à fait une musique là, absolument perceptible immédiatement.
Vous dites ceci, l'objectif de ce livre, on parlait du vôtre, reste d'étudier les enjeux d'une philosophie fondée sur le sens de l'ouïe chez ce rêveur de mots qui pensait le monde en l'écoutant. Et à partir de là, vous expliquez que Bachelard fonde une phénoménologie de l'écoute qu'on peut repérer tout autant, dites-vous, dans des images évocatrices de mouvements, les oiseaux, l'alouette, le phénix, dont on a déjà parlé d'ailleurs, avec lequel s'achève la poétique du feu, que dans une gamme de notions, le silence, la harpe éolienne, l'orchestre invisible, le retentissement. Et c'est là que vous comparez Bachelard à Debussy. Pourquoi?
Oui. Ah, il y a, à mon avis, une réflexion très proche chez Debussy, déjà, sur le silence. Enfin, le silence, au fond, c'est vraiment l'axe central de ce livre. C'est-à-dire, j'ai voulu essayer de montrer que le silence est une variation de la musique. C'est une grande idée des compositeurs du XXe siècle. C'est l'idée majeure de Debussy, qui d'ailleurs, quand il écrit Péléas et Mélisande, dit, vous allez rire, mais j'ai cette idée étrange de montrer que dans Péléas, précisément, tout vient du silence. Et Mélisande est un silence, en fait.
La musicologue Marie-Pierre Lassus est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi, dans une semaine sur Bachelard. Et c'est d'un Bachelard musicien que nous parlons aujourd'hui. Vous parliez, Marie-Pierre Lassus, de Péléas. Voici le début donc, oui, de Péléas. Pour accompagner un peu notre discussion, Debussy comme un professionnel du silence, comme un auditeur du, oui, silence. Jean Kelevitch en parle merveilleusement, mais c'est en bergsonien qu'il en parle. C'est en penseur du continu, de l'insécable. Le musicologue Jean Kelevitch est un musicologue bergsonien qui ne sépare pas les éléments de la musique, qui retrouve dans la musique la continuité dont est faite l'étoffe même de la vie. Oui. Alors que chez Bachelard, l'utilisation de la musique est oui, différente. Oui. Ça n'est pas la même chose. Oui. Et c'est cette question de silence qui est importante. Bachelard n'oppose pas le silence au bruit, il l'oppose au fond à la parole, Marie-Pierre Lassus.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a dans la façon d'entendre aussi de Bachelard, c'est-à-dire la prise en compte des deux, en fait. C'est un tout. Il ne s'agit pas de distinguer simplement le silence du son, mais c'est-à-dire de vraiment prendre la mesure de de l'émergence du son par rapport au silence et ensuite la fin du son aussi. Je suis très sensible à ces textes, par exemple dans la dialectique, justement encore de la durée, quand il parle du chef d'orchestre, il dit alors des choses merveilleuses sur le chef d'orchestre, notamment que le chef d'orchestre doit laisser s'éteindre le son plutôt que de l'étouffer, par exemple. Et que le chef d'orchestre n'a pas à imposer un rythme à ses musiciens, mais qu'il doit parvenir à, au fond, accorder les différents rythmes et des instants des musiciens qu'il a en face de lui. Et voici des traces de sang. Et maintenant,
je l'ai perdu de vue. Bachelard lui-même accorde ou désaccorde certains rythmes, le rythme de l'épistémologie et de la philosophie, dont il dit que ça n'est pas le même, concevant par exemple en matière d'épistémologie, à l'intérieur des ruptures, toujours cette idée de discontinuité si présente, si énigmatique chez Bachelard. Il pense un progrès en épistémologie, contrairement à la philosophie ou à la poésie d'ailleurs, en un sens. Effectivement, on peut se dire qu'on n'a pas progressé en philosophie depuis Platon, ni en poésie depuis Baudelaire. Enfin, Bachelard pense néanmoins des rythmes différents, le rythme de l'épistémologie, le rythme de la philosophie, le rythme même des différents systèmes de pensée qu'il met en œuvre. Le propos de Bachelard, selon vous, en musicien qu'il est, la lecture que vous en proposez, est-il d'accorder ces rythmes, ou bien par la musique et le discontinu de la musique, d'affirmer des désaccords, d'éventuelles dissonances, des singularités au fond?
Je pense qu'il distingue vraiment les deux. Dans mon livre, j'habite justement sur le poète et le philosophe et les manières d'aborder le monde en poète ou en philosophe. Seulement, je crois que l'on perd peut-être à complètement les séparer. Je crois vraiment que ce qu'il y a d'admirable chez Bachelard, c'est la réalisation, il est l'incarnation abouti de deux modes d'être au monde, qui est le mode réflexif et le mode actif. C'est-à-dire qu'il est capable tout à la fois de faire abstraction de la réalité pour se concentrer sur des objets de pensée, et en même temps, et d'aller très loin dans ce domaine, et en même temps de se concentrer sur la réalité du sentir, le fait d'éprouver des mouvements, hein, et donc de parvenir ainsi à accorder deux modes d'être au monde qui sont apparemment très 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 différents, que l'on a justement différenciés.
Comme une alternative qu'on différencie, oui. Et peut-être indûment, puisque lui-même voulait les unir comme deux contraires bien faits. D'ailleurs, l'épistémologue qu'il est pratique l'abstraction, oui. Recherche l'abstraction, considère au fond que l'empirisme qui croit ce qu'il touche relève des obstacles épistémologiques, produit des obstacles épistémologiques qui nous éloignent de la connaissance. Et qu'il faut cheminer dans l'abstraction pour accéder au singulier. Cette singularité à laquelle il prétend accéder par l'abstraction, est-ce qu'on peut en donner une autre version musicale qui serait de dire, voilà, avec la musique, on ne dit en un sens rien de particulier, mais on le dit avec une extrême précision. C'est-à-dire que la musique est d'autant plus précise que ce qu'elle dit échappe aux mots pour le dire, précisément, Marie-Pierre Lassus.
Absolument. Il y a la même singularité que l'on peut atteindre justement en ce domaine. Je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'abstraction, en effet, c'est extrêmement, extrêmement intéressant, mais en même temps, cette activité que permet de mettre en œuvre la musique, c'est une activité du corps propre, surtout, qui, comme le dit Merleau-Ponty,
est
du toucher, bien sûr, le corps propre qui déjà est créateur en lui-même. Hein. Donc, ce qu'intensifie la musique, au fond, c'est cette perception de soi, c'est-à-dire que être musicien, c'est au fond mieux se percevoir, hein, atteindre une amélioration dans ce sens. Et d'ailleurs, une idée que je n'ai pas encore totalement développée, mais à laquelle on arrive finalement assez sensiblement dans le livre, Bachelard le dit à plusieurs reprises, il parle d'hygiène active. Il prononce pas le mot de santé, mais il fait le lien entre le fait d'être actif, de mettre en activité le corps propre, et le fait de maintenir en vie. Et il y a vraiment une corrélation. Alors, il le dit, nous sommes faits pour bien respirer, la poésie est quelque chose qui contribue à l'hygiène de vie. Il dit, au fond, que cette activité du corps propre, intensifiée par la musique, eh bien, permet une sorte de thérapeutique, au fond.
Et voici que soudain, la main elle-même, la main qui pétrit et qui taille, la main qui polie et qui écrase, s'enchante de sa force et de son travail. Nous entrons dans le règne des images engagées. En examinant dans leurs détails et dans leur diversité ces images engagées, j'ai cru pouvoir parler des rêveries de la volonté. Dans le travail de la matière, il y a, me semble-t-il, une étroite union des deux facultés qu'on aime volontiers, qu'on donne volontiers comme contraires, l'imagination et la volonté. L'imagination matérielle fait vraiment une synthèse de l'image et de la force. Elle n'est plus une simple faculté d'évasion. Elle nous apporte des images et des progrès et des projets qui séduisent vraiment la volonté. Le grand romantique Jean-Paul Richter tenait le toucher pour une camisole de force qui nous enfermait en nous-mêmes. L'imagination des profondeurs de la substance matérielle nous libère de ce toucher fermé, de ce toucher passif. Elle déclenche par ses images la poésie du toucher. Soudain, la main a ses poèmes.
Mmh.
Pendant ce mois, où je ressassais comme une mélodie sans pouvoir m'en rassasier, ces images de Florence, de Venise et de Pise, desquelles le désir qu'elles excitaient en moi gardait quelque chose d'aussi profondément individuel que si ça avait été un amour pour une personne, je ne cessais pas de croire qu'elles correspondaient à une réalité indépendante de moi. Et elles me firent connaître une aussi belle espérance que pouvait en nourrir un chrétien des premiers âges à la veille d'entrer dans le paradis. Aussi, sans que je me souciasse de la contradiction qu'il y avait à vouloir regarder et toucher avec les organes des sens ce qui avait été élaboré par la rêverie et non perçu par eux, et d'autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu'ils connaissaient, c'est ce qui me rappelait la réalité de ces images qui enflammaient le plus mon désir, parce que c'était comme une promesse qu'il serait contenté. Et bien que mon exaltation eut pour motif un désir de jouissances artistiques, les guides l'entretenaient encore plus que les livres d'esthétique et, plus que les guides, l'indicateur des chemins de fer. Est-ce qu'il est pertinent pour vous, Marie-Pierre Lassus, d'établir un parallèle entre ce que dit Bachelard de la rêverie de la volonté, cet oxymore de rêverie de la volonté, l'autre oxymore d'images engagées, le troisième oxymore d'imagination matérielle, et ce que dit Marcel Proust dans le texte que je viens de lire, où le narrateur se prépare à partir à Venise. Il est tellement ému d'ailleurs de partir à Venise que finalement il ne pourra pas y aller parce qu'il tombera malade à l'idée même de s'y rendre. Est-ce qu'il faut faire un lien entre l'imagination créatrice chez Bachelard et dans la recherche du temps perdu, selon vous?
Je crois qu'il y a une relation absolument évidente. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir apporté ce texte, de l'avoir lu.
C'est Adèle Van Redt qui a trouvé ce texte. Grâce lui en soit rendu.
Texte. Hein, vraiment, il y a énormément de relations. Je crois que la relation, c'est vraiment à travers les sens aussi qu'elle se fait. Les sens dont Bachelard disait qu'ils étaient des appareils à rêver. Des petites harpes éoliennes qui se renvoyaient les uns les autres. Et je crois que, justement, aussi bien Bachelard que Proust développent une sorte de sixième sens qui les accorde et qui nous rend sensibles à leur jeu.
Est-ce que ce sixième sens est qualifié, est-il un sens supplémentaire ou bien une attention plus aiguë, cinq sens plus aiguisés? Est-ce qu'il s'agit de la même façon, est-ce que l'inspiration doit être comprise comme la visitation d'une muse, par une muse, ou bien comme tout simplement l'art, en inspirant, d'être attentif à toutes les odeurs qui nous viennent? En quel sens faut-il l'entendre? Est-ce qu'on est dans la matière ou est-ce qu'on est non pas dans un au-delà de la matière, mais dans une matière déjà transformée, finalement?
Oui, je pense qu'on est quand même dans une matière déjà transformée, c'est évident. Vous savez, je suppose qu'on a dû le dire et qu'on le redira encore dans cette semaine, que l'idée de Bachelard, c'est de dire que l'imagination, c'est d'abord la possibilité de déformer les images et les matières.
Revenons à ce qui distingue Bachelard de Bergson. Loin de se soumettre, dites-vous, à une continuité, pardonnez-moi, c'est pas vous qui le dites, c'est Bachelard lui-même, dans l'intuition de l'instant. Loin de se soumettre à une continuité supérieure, d'essence mélodique, Henri Bergson, le temps y est toujours jaillissant et non donné d'avance. En musique, cela correspond au rythme qui surgit de cet ensemble constitué par les sons et les silences. La notion de rythme, centrale dans la poétique, est l'expression d'une éthique faisant de l'homme un être discontinu, à l'image d'un temps senti comme essentiellement affectif. Je ne comprends pas cette phrase.
Alors, c'est cette idée majeure que, de toute façon, le temps n'existe que dans l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, dit Bachelard, autre qu'affectif. Le temps se vit. On ne peut pas imaginer un temps comme ça absolu, dans l'absolu. Et cette idée que les êtres humains, avant que d'être humains, sont des vivants, sont donc des systèmes d'instants eux-mêmes. Ce qui rejoint d'ailleurs une phrase que je cite Xénatis qui parle aussi de l'être humain comme d'un homme discontinu. Cette discontinuité est absolument essentielle parce qu'elle permet justement d'être justement toujours en activité. C'est un acte en réalité. C'est d'actes dont il s'agit. C'est-à-dire que d'ailleurs Paul Valéry disait homme, pour définir l'homme, homme peut-être non, plutôt acte. Et je crois qu'on est vraiment là. C'est pourquoi j'ai voulu parler de la musique chez Bachelard d'un point de vue phénoménologique. Et j'ai défendu cette idée que la musique n'existe pas, elle n'existe que dans l'acte.
Un acte qui présuppose, de la part de celui qui l'écoute en tout cas, une certaine forme d'abandon, de laisser aller. L'abandon en lui-même est une activité et on retrouve à ce moment-là chez Bachelard la part essentielle qu'occupe la rêverie. Il y a une rêverie de la volonté, peut-être qu'on peut ici comprendre ce qu'il entend par rêverie de la volonté. La rêverie est volontaire. C'est volontairement qu'on se laisse aller. On va aller au cœur de ce paradoxe en entendant l'un des textes qui le dit le mieux, un texte sur la solitude du rêveur de Chandelle, lu par Anne Brissier. Écoutez.
En rêvant, solitaire et oisif, devant la chandelle, on sait bientôt que cette vie qui brille est aussi une vie qui parle. Les poètes, là encore, vont nous apprendre à écouter. La flamme bruit, la flamme geint, la flamme est un être qui souffre. De sombres murmures sortent de cette géhenne. Toute petite douleur est le signe de la douleur du monde. Un rêveur qui a lu les livres de Franz von Baader retrouve en miniature et en sourdine, dans les cris de sa chandelle, les éclats de l'éclair. Il entend le bruit de l'être qui brûle, ce « schrack » que Gene Susini nous dit intraduisible de l'allemand en français. Il est curieux de constater que ce qu'il y a de plus intraduisible d'une langue à une autre, ce soit les phénomènes du son et de la sonorité. L'espace sonore d'une langue a ses résonances propres. Mais savons-nous bien accueillir dans notre langue maternelle les échos lointains qui résonnent au creux des mots ? En lisant les mots, nous les voyons, nous ne les entendons plus. Quelle révélation fut pour moi le dictionnaire des onomatopées françaises du bon Naudier. Il m'a appris à explorer avec l'oreille la cavité des syllabes qui constituent l'édifice sonore d'un mot. Avec quel étonnement, avec quel émerveillement, j'ai appris que, pour l'oreille de Naudier, le verbe « clignoter » était une onomatopée de la flamme de la chandelle. Sans doute l'œil s'émeut, la paupière tremble quand la flamme tremble, mais l'oreille, qui s'est donnée tout entière à la conscience d'écouter, a déjà entendu le malaise de la lumière. On rêvait, on ne regardait plus. Et voici que le ruisseau des sons de la flamme coule mal. Les syllabes de la flamme se coagulent. Entendons bien, la flamme clignote.
Entre le songe illucide et l'abstraction rationnelle, entre l'inconscient opaque et la surconscience diaphane, il y a la rêverie, ce juste milieu du savoir humain, qui menace à chaque instant de s'évaporer en rêve ou de se condenser en savoir objectif, mais qui révèle à la fois le monde tel qu'on l'imagine et les mécanismes qui nous font l'imaginer ainsi. Ce qui entrave la connaissance est donc aussi ce qui la rend possible. Le rêveur, que Bachelard appelle « dormeur éveillé », devient ainsi la figure par excellence de l'homme total, diurne et nocturne à la fois, celui par qui la science trouve peut-être le chemin des cœurs. Le rêveur, c'est le grand vigilant. Marie-Pierre Lassus, est-ce qu'on peut parler de musique à propos de la solitude du rêveur de chandelle qui découvre que toute petite douleur est le signe de la douleur du monde, c'est-à-dire en fond, et c'est un terme qu'on n'a pas encore employé cette semaine, inscrit son existence dans une cosmologie, ce qui est essentiel chez Bachelard.
Oui, c'est essentiel. Et je trouve que ce texte, en effet, dit aussi beaucoup sur la relation entre musique et affectivité, ce qui n'est pas du tout affection. Hein. Je le dis justement au sens...
Quelle différence faites-vous justement parce que c'est quand même une affaire d'amour.
Oui, c'est une affaire d'amour. D'ailleurs, il parle lui-même, Bachelard le dit, hein, dans ce texte. Bon, je ne vais peut-être pas m'attarder sur ces textes-là, mais je voudrais parler de ça, parce que là, je me réfère à Michel Henry, que j'ai cité aussi dans mon livre, qui parle de cette différence entre l'affection et l'affectivité, qui est la capacité de l'affectivité, donc de jouir et de souffrir. Et c'est pourquoi je mentionne dans mon livre le cas de ce peintre Brisson, qui est aussi cité par Michel Henry, qui est un peintre qui peint dans l'obscurité, et il dit qu'il peint les yeux fermés, la souffrance, sa souffrance. Donc il y a vraiment une relation entre les deux et une relation entre musique et affectivité, en tout cas.
Est-ce que c'est à cet égard qu'il faut entendre cette aptitude à souffrir, c'est-à-dire à sentir les choses, donc cette attention renouvelée au monde, se laisser aller volontaire, donc ce paradoxe d'une rêverie de la volonté qui nous rend poreux, perméables au monde, disponibles. Donc, est-ce que c'est à cet égard qu'il faut comprendre, en ce sens, l'attachement que Bachelard porte à la poésie de Lautréamont ? C'est la notion de douleur qui m'y fait penser, en l'occurrence.
Oui, je pense que aussi c'est cette référence presque d'une sensibilité presque animale qui le relie à Lautréamont, qui l'a beaucoup intéressé et qui, je pense, est le point de départ à une certaine prise de conscience, justement, de cette aperception en un seul mot, de soi, qu'il a découvert aussi dans la poésie, dans la musique.
Le commentaire de Lautréamont traverse toute l'œuvre de Bachelard, implicitement, explicitement, comme la musique.
Je crois que c'est vraiment le fondement même de la poétique de Bachelard.
Ah, carrément.
Je crois vraiment. J'ai trouvé énormément de choses dans le petit Lautréamont, petit livre absolument extraordinaire sur justement cette idée. Il dit d'ailleurs quelque chose d'amusant dans ce livre. Il parle du cogito en disant je crois que c'est je crie en fait. Je ne sais plus exactement le. Je le cite dans mon livre, mais il dit que le fait de crier est vraiment une marque du vivant.
Il parle d'un cogito sonore et énergétique.
Énergétique.
C'est ça les expressions que vous employez.
Voilà.
Il parle de la tonalité profonde des chants de Maldoror et il dit le cri n'appelle pas, il exulte. Oui. Le cri est aussi l'antithèse du langage. C'est un univers actif, un univers crié.
Oui, absolument. Et je pense vraiment que Lautréamont, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup médité sur Lautréamont, qui m'a semblé être un livre très nietzschéen aussi, dans un certain sens.
Très nietzschéen, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que, là encore, chez Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur, comme dit Nietzsche.
Oui.
Il y a peu de moments où Nietzsche ne s'est pas contredit, mais en l'occurrence, c'est une constante chez lui. Qu'il soit wagnérien ou wagnérophobe, sans la musique, la vie serait une erreur. Et ça, c'est une constante, c'est la dominante de l'œuvre de Nietzsche, c'est l'accord dominant de son travail. C'est le philosophe musicien par excellence. Quand on parle de l'épistémologie de Bachelard, on le compare souvent à Nietzsche, puisqu'on montre comment Nietzsche est l'un des premiers à briser le sujet, donc à introduire, là encore, une sorte de cosmologie ou à rendre disponible au monde. Mais effectivement, il y a peut-être une filiation à opérer du côté du Nietzsche musicologue et musicien.
Oui. Alors justement, et
pratiquant lui d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et cette filiation ne se fait pas, d'ailleurs, on n'a pas, je trouve, souvent souligné cette relation entre Nietzsche et Bachelard. On a beaucoup parlé de Schopenhauer, mais il me semble que sur ce point, sur un point précis, ils se rejoignent, qui est le fait de dire que la musique donne une idée immédiate de la vie. C'est ce que dit Nietzsche. Et je pense que Bachelard l'a mis en pratique. C'est pourquoi il n'en parle pas, mais il suggère sans cesse la musique. Et c'est ça aussi qui se trouve, à mon avis, latent dans le Lautréamont, dans le cri, dans cet univers énergétique, c'est-à-dire le fait d'être tout entier dans l'acte et finalement d'être encore une fois en activité.
Peut-être là, pour le coup, y a-t-il une vraie différence entre l'épistémologie et la poétique ? Parce que Bachelard est un épistémologue de la médiation.
Oui.
On n'arrête pas d'interposer entre le monde et soi, justement, les médiations nécessaires de la raison, qui n'est pas dupe de ce que nous croyons voir. La philosophie du nom, l'obstacle épistémologique, ça n'est pas l'œuvre d'un philosophe de l'immédiat.
Non.
Pour le coup, l'épistémologue est vraiment médiateur. Le poète est vraiment immédiateur.
Oui, mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas totalement de l'immédiat, en tout cas quand on parle de musique, c'est-à-dire qu'il y a en même temps, c'est un peu justement, un peu comme dans la rêverie, c'est-à-dire qu'il y a cet abandon à soi, à l'entièreté de l'être, et il y a en même temps quelque chose qui relève, enfin, quand je parle de la musique, de la technique. Alors là, pour le coup, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de l'abandon total, ce n'est pas de l'immédiateté. Il y a quand même quelque chose qui est assez parallèle à la rêverie, à mon avis.
C'est-à-dire une immédiateté conquise au moyen d'une technique.
Voilà. Voilà. Et c'est de ça que je parle dans l'interprétation. Par exemple, un interprète, c'est quelqu'un qui est à la fois très spontané, qui joue vraiment en ayant une sensation très précise de son corps propre, et en même temps qui a une technique absolument dont il se détache complètement parce qu'il la attise.
Je me demande si vous n'êtes pas en train de bergsoniser un peu Bachelard. Vous n'êtes pas en train de dire, parce que ça c'est très bergsonien pour le coup, hein, la spontanéité d'un mouvement qui finalement conjure la technique qui, comme des béquilles, lui a permis d'arriver jusqu'à une telle maîtrise.
Pas tout à fait. Il y a quand même une spontanéité contrôlée, mais il y a quand même, avant ça, la manière de se sentir qui est très importante.
En fait, nous sommes placés devant le problème même de la poésie. Un problème qu'on peut résumer dans la contradiction suivante. Une image poétique doit être à la fois ancienne et nouvelle. Il faut qu'elle soit le résumé d'un songe ancien et une ouverture sur l'avenir de la langue. Il semble que le dormeur éveillé aille à l'origine du langage, à ce point initial où le silence de l'être s'ouvre sur l'humanité du langage. Dans un admirable livre qu'on vient heureusement de traduire en français et qui a pour titre « Le monde du silence », Max Picard explore cette zone profonde où l'être silencieux reçoit le don de la parole. Alors on comprend que le silence n'est pas le contraire du bruit, pas plus que la nuit n'est le contraire du jour. Le silence vrai, le silence de l'homme, est le principe positif, le principe de la méditation, la rentrée dans la solitude de l'être, dans cette solitude où, nécessairement, le dormeur éveillé se recueille, se reconnaît, se connaît. Alors, les paroles qui ont la marque de la parole première sont les paroles que le songeur s'adresse à lui-même. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu es clamé le soir, il descend, le voici.
Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va accueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.
Et le poète entend les voiles de la nuit qui se déploient. Il entend les pas silencieux de la consolation.
Marie-Pierre Lassus, en concevant la musique, dites-vous, comme une phénoménologie liée à une expérience humaine, Bachelard s'est intéressé à ce qui est au fondement de la relation entre les êtres et les choses. La musique, dites-vous, n'est pas ainsi réservée aux spécialistes, mais fait partie de la vie, comme dans les civilisations extra-européennes. Elle est à l'origine d'une ontologie ou d'une poétique de la relation, pouvant permettre à l'homme de mieux habiter le monde à condition de se faire lui-même instrument. Au fond, Bachelard se fait lui-même instrument, ce qui permettrait de comprendre d'ailleurs la façon dont il joue de sa propre voix. On a parfois le sentiment, quand on écoute Bachelard, qu'il s'écoute lui-même et qu'il écoute son propre accent.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est vous qui l'avez dit.
Oui, oui, tout à fait. Ce que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui, en tout cas chez Bachelard, quand on relit Bachelard, et c'est d'ailleurs ce qui a donné aussi l'origine du sous-titre de ce livre, Une philosophie des silences et des timbres.
Vous avez mis le silence avant le timbre, oui. Contrairement à lui.
Oui. Oui, ce sous-titre vient de la préface du livre de Martin Buber qu'il a préfacé avec Gabriel Marcel, « Je et tu ». Or, ce qui me paraît très important, c'est cette idée chez Bachelard d'une entente, d'une relation, d'une solidarité entre les choses et les êtres, et entre les êtres humains, qu'il s'agit d'entendre. Quand on relit cette merveilleuse préface, c'est vraiment merveilleux. Quand il dit qu'il faut entendre justement ce qu'il y a entre les êtres, ces silences, ces points d'interrogation, points d'exclamation dans les phrases, et qui donne justement une perspective merveilleuse au livre de Martin Buber, qui est en lui-même extraordinaire.
Mais là encore, on retombe quand même sur des contradictions, des paradoxes, des choses difficiles à comprendre chez Bachelard. Parce que la solidarité entre les choses et les êtres, prenons par exemple Schopenhauer, qui est le philosophe de la solidarité des choses et des êtres, qui est également le penseur de l'égoïsme. Il dit d'ailleurs que si nous n'avions pas l'intuition de cette solidarité souveraine, en réalité nous ne serions pas égoïstes. On n'aurait pas besoin d'être égoïste et de se replier sur soi-même si on n'était pas au fond, dès que le voile de Maya se déchire et que l'individu disparaît, si on n'était pas au fond soudés les uns aux autres par une solidarité souveraine. Schopenhauer est le penseur de ça. Mais quand il parle de solidarité, il ne parle plus de ce qu'il y a entre les êtres, justement. Or, quand Bachelard parle de solidarité, il parle des silences, des intervalles, des points d'interrogation. C'est-à-dire que la solidarité elle-même se déploie sur fond de discontinuité chez Bachelard.
Absolument. Et cette solidarité, elle naît d'abord dans le rapport à la solitude que chacun entretient avec soi.
Qu'on retrouve dans le poème de Baudelaire, la recueillement.
Absolument.
Dont il lisait les premiers vers. Oui.
Absolument. Il ne peut y avoir de solidarité qu'à partir d'une base, d'une écoute de soi très, très grande, un travail sur soi qui est justement le propre d'une éthique. Et c'est pourquoi je dis aussi dans ce livre que Bachelard, le Bachelard musicien ne va pas forcément dans le sens d'une esthétique, mais plutôt dans le sens d'une éthique, justement.
D'une éthique, c'est-à-dire d'une éthique de la relation.
Une éthique de la relation, à la fois d'un éthique au sens où l'entend Paul Audy d'ailleurs, de travail sur soi-même, d'écoute de soi.
C'est-à-dire de création chez Paul Audy.
Voilà,
c'est une éthique créative.
Oui. Créative et en même temps une écoute qui permet donc d'écouter cet espace entre les êtres.
Et ce rapport qu'il entretient avec les êtres, donc ce rapport de corrélation, est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre le passage qu'il opère dans l'archive qu'on vient d'entendre entre le silence de l'être, la révélation du silence de l'être, les choses ne parlent pas. La nature est peut-être écrite partiellement en langage mathématique, mais enfin les choses ne parlent pas. Entre le silence de l'être et l'humanité du langage, ce qu'il appelle l'humanité du langage. Il n'y aurait pas humanité du langage s'il n'y avait pas silence de l'être. Et c'est à la lumière de ça qu'il lit Recueillement de Baudelaire.
Absolument. Ben oui, vous avez parfaitement raison.
Mais où est la musique là-dedans?
Oui. C'est vraiment, je crois que, alors je mets dans ce livre, je fais une relation avec la conception de la musique en Chine. Hein, c'est donc...
Vous parlez de sino-japonaise d'ailleurs. Musiques,
hein. Voilà, sino-japonaise, et je parle justement de cette musique sans sonorité que je mets en relation avec l'imagination sans image de Bachelard. Hein. Et je dis que justement le concept de retentissement, qu'il a d'ailleurs pris d'Eugène Minkowski, s'appuie sur cette idée que le silence est plein de sonorités, justement. Et c'est le fondement d'ailleurs de la musique, par exemple de Toru Takemitsu, c'est exactement cette idée-là. C'est aussi au fondement de la musique de Maurice Ohana, qui a écrit une œuvre qui s'appelle Le Silencière, que je cite parce
Le Silencière,
parce que justement, Bachelard définissait le musicien comme le silencière et le poète également. Il, dans un chapitre de L'air et les songes, il parle du poète et du musicien comme des silencières. Je pense vraiment qu'il
littéralement
y a
le silencière.
Le silencière,
c'est-à-dire.
C'est un mot créé par Bachelard et qui dit que le poète est un silencière. Il entend les pages blanches, il dit qu'il entend en fait par imagination. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que quand on parvient à cette écoute de soi, à cette intense activité, on entend une musique intérieure qui donc est le début du musical, si je puis dire, et qui permet de faire de la musique. Alors, je résumerai ça en disant, parce que c'est peut-être un peu compliqué, que c'est exactement l'essence même.
C'est surtout
même
extrêmement simple,
oui,
et c'est donc
c'est
d'autant plus difficile
simple,
à dire.
Absolument,
oui.
C'est très simple, et c'est en même temps très compliqué. C'est exactement la base d'une pratique de musique collective, c'est-à-dire que dans un orchestre, ce qui est important, ce ne sont pas les sons qui sont faits, ce sont les silences qui s'accordent entre eux pour jouer. On peut très bien, il peut y avoir des orchestres qui font toutes les notes et qui vont très vite, etc., qui font tout parfaitement bien et qui n'ont absolument pas fait de musique. Et il y a des orchestres où l'accord des rythmes, ce qui correspond à ce que dit Bachelard, est tellement intensifié. Il s'agit d'obtenir une intensité, pas juste des notes, mais une intensité dans les mouvements, dans les êtres, dans les rythmes, qui fait la musique. Et c'est pourquoi je pose la question, qu'est-ce que la musique dans ce texte, dans ce livre ?
Oui, et est-ce qu'on n'est pas musicien avant même d'entendre de la musique, en un sens ? On a ici la clé de ce qu'il dit de la solitude comme un principe positif, du silence comme un principe positif de méditation. Il parle du silence comme on parle de la solitude.
Absolument.
Il ne cesse de le faire.
Oui.
Le silence est un principe positif de méditation et en réalité, c'est l'homme solitaire, c'est-à-dire celui qui ne vit pas sa solitude comme une séparation, mais comme l'art d'être hanté, qui décrit sa propre solitude. Et on retrouve ici la synthèse du diurne et du nocturne, de la solitude et de la collectivité, c'est-à-dire du dormeur éveillé,
absolument,
au fond.
Absolument.
Liszt et Victor Hugo. Oh, quand je dors, merci Marie-Pierre Lassus d'être venue nous parler d'un Bachelard musicien. Je renvoie très chaleureusement l'auditeur à votre Gaston Bachelard musicien, une philosophie des silences et des timbres, c'est chez Septentrion. Passe aux choses sérieuses et au journal des nouveaux chemins de la connaissance avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Choses sérieuses, évidemment, voilà, c'est les choses sérieuses, c'est le foot, évidemment.
Et oui, on aura compris au terme de cette émission que la musique est bien plus qu'un simple divertissement et présente un intérêt proprement philosophique, mais pourrait-on dire la même chose du football ? À en juger des conséquences des déboires de l'équipe de France en Afrique du Sud, on voit bien que le foot, s'il n'est au départ qu'un jeu, peut rapidement prendre des proportions économiques et politiques considérables qui dépassent le cadre du divertissement. Donc oui, nous parlons de foot aujourd'hui, du foot comme occasion de philosopher, avec Mathias Roux, auteur d'un Socrate en crampons, une introduction sportive à la philosophie parue chez Flammarion. Bonjour Mathias Roux.
Bonjour.
Mis à part pour ceux qui ont en tête l'extrait des Monty Python où l'on voit un match de foot dans lequel s'affrontent deux équipes entièrement composées de philosophes, on a du mal à voir à premier abord ce qu'il y a de plus étranger à la philosophie que le foot. Et pourtant, c'est à partir de ce sport que vous avez choisi d'écrire ce qui se veut être une introduction à la philosophie, Mathias Roux. Alors, en quoi réfléchir sur le foot en particulier peut-il être une bonne façon de philosopher, Mathias Roux ?
Le football est un sport, mais c'est avant tout un jeu. Le jeu est une dimension de la vie humaine très très ambivalente, très ambiguë, pleine de contradictions. Et à l'intérieur de ces contradictions, il y a le moyen de développer des problèmes de philosophie. Donc j'ai voulu me servir du football et de toutes les dimensions du football, c'est-à-dire du jeu, mais aussi du stade, de l'environnement et du commentaire, pour montrer ce que c'est, à partir de situations concrètes, que aller vers un problème de philosophie. Voilà en quoi je me suis servi du jeu et de l'ambivalence du jeu pour cela.
Mais alors pourquoi avoir choisi le foot en particulier ? Et je vous pose cette question d'autant plus qu'il y a en ce moment beaucoup d'ouvrages, enfin en tout cas plusieurs ouvrages de philosophes sur le foot qui paraissent. Donc pourquoi, en dehors de la Coupe du Monde de football, pourquoi cet intérêt pour le foot ?
Alors justement, je n'ai pas choisi le foot parce qu'il serait porteur par lui-même de valeurs particulières ou d'intérêts particuliers. Tout simplement parce que d'abord c'est un sport que je connais bien, que j'aime, mais aussi parce que c'est un sport qui a beaucoup de dimensions, des dimensions sociales, politiques. Et je parlais à l'instant du stade. Lorsqu'on va au stade, il se passe des choses qui ne se passent pas sur un court de tennis qui est beaucoup, avec une ambiance beaucoup plus feutrée. Et puis le foot aussi, par exemple, amène tout un commentaire et un usage du langage qui est intéressant. Donc voilà, le foot offre des aspects très nombreux. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le foot permet, le cadre du match de foot, une dramaturgie, une scène, et il me fallait cette dramaturgie et cette scène pour créer une tension et un intérêt pour le lecteur pour venir à la philosophie.
Voilà, donc je rappelle que votre livre n'est pas à proprement parler un essai, ça se présente plutôt comme un manuel de philosophie, en tout cas qui pourrait initier les philosophes, et notamment peut-être les élèves en terminale, puisque vous reprenez des notions qui sont au programme du bac, en fait, en tout cas des études de philosophie en terminale, donc ça se présente plutôt comme un manuel. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et sur laquelle vous insistez, c'est que vous ne proposez pas une philosophie du football, mais vous philosophez à partir du foot.
Voilà, je ne propose pas une philosophie du football, je propose des séances de problématisation avec un souci assez pédagogique, et je n'ai pas vocation à proposer une énième ressucée de doctrine vite avalée et vite recrachée, si je puis dire. Et donc, voilà, je m'appuie comme sur un prétexte, sur les notions du programme de terminale, mais j'ai vocation à chaque fois à proposer un véritable exercice de philosophie pratique et concrète avec des exemples tirés du football. On peut peut-être prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple du stade, par exemple. Bon, j'invite les auditeurs à se rendre un jour à un stade pour faire une expérience philosophique sur laquelle je m'appuie. C'est que dans un stade, on fait, moi, le premier personnellement, l'expérience que l'individu n'est peut-être qu'une abstraction, et que le groupe est peut-être premier, et que, contrairement à ce qu'on croit dans la vie courante, où on pense que l'individu, c'est la monade ou l'unité de base de la société, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur fond d'une collectivité. Je le sais parce que moi, professeur de philosophie, être rationnel et raisonnable, je peux proférer des insultes très rapidement, entrer dans le stade en toute bonne conscience, sous la pression du groupe. Donc voilà, par exemple, au stade, je peux faire cette expérience, qui est une expérience de philosophie, puisque ça m'amène à réfléchir à la question, savoir si l'individu n'est pas une abstraction, au fond.
Donc à partir de l'exemple du stade, ou de la dimension du stade au sein d'un match de foot, vous proposez une réflexion sur la notion d'individu,
sur la notion d'individu, mais aussi de société et de société politique. Parce que j'en viens de là à réfléchir à la violence, puisque au stade, il y a une certaine forme de violence. Violence entre les supporters, entre l'arbitre et les supporters, entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et l'arbitre. Mais c'est une violence beaucoup plus mimée, représenter, symboliser qu'une violence réelle. Je fais une parenthèse, bien entendu, pour les franges extrémistes qui, elles, n'ont rien à voir avec le football. Et cette violence, par exemple, ce conflit, il est en quelque sorte joué pour être surmonté. Et là, il y a une sorte de symbolisation ou de symbolique de la vie politique. La représentation de la violence pour mieux la canaliser dans une forme de catharsis collective.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ne parlez pas du foot en général dans ce livre, mais vous vous appuyez sur un match en particulier, la finale de la Coupe du Monde de 2006, donc, et vous reprenez, en fait, chaque chapitre est un minutage précis du jeu. On a la première minute, la nef du foot et la notion qui est associée, la société, le politique. On a la mi-temps, on refait le match, la notion qui est associée, c'est le langage. Évidemment, la 107e minute, le coup de boule, et là, vous évoquez à la fois la justice et le droit, et la morale et le devoir.
Oui, alors d'ailleurs, bon, j'ai pris ce match-là parce qu'il y a des faits de jeu célèbres, comme le coup de boule de Zidane, et puis il y a toute ce que j'appelais une dramaturgie qui va nous mener jusqu'à la remise du trophée, la Coupe du Monde, qui me permet d'aborder le pouvoir et ce genre de notions politiques. Alors, si on reprend l'exemple de la 107e minute, bon, c'est du pain béni. Je veux dire, Zidane a rendu un service à tous les professeurs de philosophie qui peuvent, grâce au coup de boule, mettre en scène le conflit entre la légitimité et la légalité.
Alors, peut-être en dire quelques mots là. Donc, prenons ce cas précis. En quoi est-ce que le coup de boule de Zidane va engendrer une réflexion entre la différence sur la légalité et la légitimité?
Parce qu'on sait que l'expulsion de Zidane nous paraît parfaitement légitime parce qu'il s'est fait justice lui-même par un acte de violence, il n'a pas le droit, mais en même temps, son expulsion est illégale car elle est entachée d'un vice de procédure. On le sait, même si la FIFA ne l'a jamais reconnu, que l'arbitre de champ a été influencé par le quatrième arbitre qui lui-même s'est servi d'un écran et il n'avait pas le droit de le faire. Il y a donc ici un conflit très clair entre la légitimité et la légalité.
Et donc vous prenez aussi d'autres exemples, notamment, arrêtons-nous sur un autre chapitre, celui de la mi-temps. On refait le match, le langage.
Alors, la mi-temps me sert à montrer l'usage du langage qui est fait avec le football. On sait que le football, l'un des intérêts que l'on y trouve, c'est de le commenter et de refaire le match en permanence. Alors, on peut se poser la question, mais n'est-ce pas parler pour ne rien dire? Certes, c'est parler pour ne rien dire. Je réponds à la question, c'est parler pour rien dire. Mais heureusement que le langage n'est pas qu'un moyen de transmettre des informations. Ce n'est pas qu'un code. Le langage, c'est aussi un moyen d'être au monde et de faire vivre le sens par des métaphores, par des symbolisations. Et si on discute football, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de langage plus fleuri que le langage du football. Et donc, je montre qu'en réalité, avec le football, on peut réfléchir à un usage du langage qui n'est pas l'usage que l'on a avec le sens commun.
Le grand intérêt de votre livre, c'est de montrer qu'on peut philosopher à partir du foot tout en maintenant la dimension ludique du foot. Et justement, vous dites que il ne faut pas prétendre considérer le foot comme étant autre chose qu'un jeu, car c'est précisément en raison de sa nature ludique qu'il est intéressant philosophiquement. En tout cas, je renvoie les auditeurs à votre livre qui s'appelle « Socrate en crampon, une introduction sportive à la philosophie ». Et on trouve ça aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci bien.
Merci Adèle, vous voulez nous parler de Nietzsche et Simondon également.
Oui, puisqu'on parle du jeu, je vous propose un livre sur deux philosophes qui voyaient le vivant comme un théâtre qui fait tomber les masques du monde matériel et découvre le mouvement de la vie. Ces deux philosophes, c'est effectivement Nietzsche et Simondon, que le philosophe Alain Junion met côte à côte dans un livre intitulé « Le théâtre du vivant ». Pour Alain Junion, Nietzsche et Simondon se sont tous les deux intéressés à ce qu'ils nomment le « vivant homme ». Ils auraient vu un théâtre, par exemple à travers le jeu de ce que les hommes ont baptisé eux-mêmes du nom de morale, ou bien ils l'ont vu dans la performance de ce qu'il faut décrire comme étant l'individuation de l'homme. Alors voilà, aborder la pensée de Nietzsche et de Simondon à partir du thème du théâtre du vivant, c'est le projet de ce livre qu'on trouve aux éditions Dithmar et dont l'auteur est le philosophe Alain Junion.
C'est noté, merci Adèle. Et il faut travailler sur Simondon d'ailleurs, ça nous arrivera de la même façon qu'il faudrait qu'on refasse une semaine sur la philosophie du sport. Autant de choses qu'on vous proposera certainement l'an prochain, chers auditeurs. Merci à tous, donc, musique et football, Bachelard et les crampons. C'était le jeu du jour. On se retrouve sur Internet à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, des bibliographies exhaustives dans la mesure du possible, ainsi que l'écoute en ligne des émissions du mois. Et on se retrouve aussi demain de 10h à 11h, comme tous les jours que la nature fait pour la suite de cette semaine sur Bachelard. Demain, c'est d'épistémologie que nous parlerons de nouveau, avec Didier Gilles cette fois-ci. Donc on parlait d'épistémologie hier avec Pascal Nouvel, demain c'est Didier Gilles. On reviendra notamment sur la différence entre connaissance commune et connaissance scientifique et sur l'anticartésianisme de Bachelard. À demain, donc, de 10h à 11h. Il est 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.